Donc bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis Mélina Fatsea, je suis professeure de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Bordeaux et je suis chef du pôle d'addictologie au CHU et également au centre hospitalier Charles Perrins. Donc je voulais commencer par remercier sincèrement la librairie Mola et puis le CHU de Bordeaux pour l'organisation donc de cette conférence et puis pour leur invitation et je suis très heureuse de pouvoir être ce soir parmi vous et donc vous parler de l'alcool, qui est une thématique extrêmement importante en termes notamment de santé publique. Et c'est une présentation, une conférence que on va faire à deux voix avec donc ma collègue, le docteur Natacha Pistre, qui viendra se présenter tout à l'heure. Alors pour commencer cette présentation, il me semblait tout d'abord très important de pouvoir revenir un instant sur finalement l'importance du fardeau sanitaire que représente donc l'alcool en termes de mortalité et de morbidité au niveau mondial, tout d'abord, puisque l'alcool est responsable tous les ans de environ 3 millions de décès par le monde. Et puis l'alcool est également considéré aujourd'hui comme la seconde cause de mortalité évitable en France et dans le monde, donc après le tabac. L'alcool, enfin, est directement à l'origine ou responsable de, directement ou indirectement, d'environ 200 pathologies induites. Donc on voit le poids que cela va représenter en termes en termes sanitaires. En France, on estime environ à 40 millions de consommateurs actuels d'alcool, dont environ 8 millions de consommateurs réguliers, 3 millions de consommateurs quotidiens. Et en population générale, en fait, les enquêtes estiment à environ 7% de sujets qui auraient une consommation à risque d'alcool de manière chronique. Et ce sont des notions sur lesquelles on va pouvoir revenir tout à l'heure. Donc si on considère, donc, vous voyez sur cette diapositive, les données de consommation en France en 2025, à partir d'un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites en population générale, on se rend bien sûr compte que l'alcool et le tabac sont les deux substances qui restent les plus consommées. L'alcool, c'est la substance la plus consommée, avec, comme je vous le disais, 8 millions d'usagers réguliers et 3 millions d'usagers quotidiens. Donc ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir considérer cette part d'usagers réguliers quotidiens, puisque ce sont ces personnes-là pour lesquelles finalement les consommations d'alcool vont être les plus problématiques. On peut également souligner que l'alcool et le tabac sont les deux substances les plus problématiques, les plus catastrophiques en termes de santé publique. Ça reste les deux substances les plus prévalentes. Et on peut effectivement évoquer certain nombre la plupart des professionnels, effectivement, soulignent une sorte de deux poids, deux mesures en manière de prévention et de politique publique, puisque, effectivement, l'État a su s'engager pour un certain nombre de mesures visant à réduire la consommation de tabac en population générale, avec des résultats plutôt effectifs sur la baisse du tabac ces dernières années, et ce qui n'a pas du tout été le cas pour la consommation d'alcool, et en particulier le dry January ou le défi de janvier, qui est aujourd'hui actuellement toujours essentiellement porté par plutôt les associations. Quelques chiffres pour finir un peu cette introduction et qui illustrent le fardeau sanitaire. En France, aujourd'hui, la consommation d'alcool, c'est responsable d'environ 40 000 décès. En premier lieu, les cancers, suivi des maladies cardiovasculaires et des maladies digestives. Et c'est également 240 000 hospitalisations avec un diagnostic principal lié à l'alcool. Au-delà de cet impact pour la santé, il faut également vraiment avoir à l'esprit que une consommation problématique d'alcool et qui plus est une addiction à l'alcool, ça va générer également beaucoup de souffrance sur la famille, sur l'entourage, les proches et avec aussi un impact au niveau sociétal. On peut citer bien sûr l'impact en termes d'agressivité, de troubles du comportement, de violences conjugales, de négligence ou de maltraitance. Également, toutes les complications de l'exposition fœtale à l'alcool, avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et puis, au niveau sociétal, un impact très important avec, par exemple, une implication importante dans les accidents de la voie publique. Et donc, un coût sociétal annuel qui reste considérablement élevé. Alors, vous l'avez compris, l'alcool va être une substance qui est très fortement toxique. L'alcool, à sa toxicité, va avoir une toxicité directe sur l'ensemble des organes. Et l'alcool et ses métabolites, en particulier donc l'acétylaldéhyde, donc avec un impact systémique, puisque ça va être diffusé par la circulation sanguine sur l'ensemble des organes, donc avec une toxicité sur l'ensemble de ces organes. En plus de cette toxicité directe, il va y avoir également un état induit de l'alcool au niveau de l'inflammation. Donc ça va être capable de générer un état finalement inflammatoire chronique qui va également potentiellement dans un second temps générer certain nombre de liaisons par un certain nombre de mécanismes, dont un des mécanismes, c'est des perturbations au niveau du microbiote, de la flore intestinale, associé à une modification de la perméabilité de la muqueuse intestinale. Donc la liste des pathologies liées à l'alcool, elle est quand même assez lourde. On va citer toutes les complications au niveau cardiovasculaire, hépatique, digestive, neurologique, centrale et périphérique. Ça va être également impliqué dans de très nombreux cancers, également dans tout un ensemble de troubles psychiatriques, la dépression, l'anxiété, les idées suicidaires, le syndrome d'alcoolisation fœtale lors de consommation d'alcool pendant la grossesse, mais également de manière plus large, qu'on appelle l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, qui va s'exprimer essentiellement par des troubles du neurodéveloppement dans les premières années de la vie et tout un ensemble également de pathologies associées. Alors, quand on parle de toxicité liée à l'alcool, on peut se poser finalement la question, est-ce que cet impact sanitaire de la consommation d'alcool, elle va concerner exclusivement les personnes qui développent une addiction à l'alcool, un trouble de l'usage, ou est-ce que de manière plus large, ça peut concerner l'ensemble des usagers d'alcool, et si c'est le cas, il est important de pouvoir identifier peut-être des niveaux de consommation ou des repères ou des seuils de consommation qui seraient plus ou moins à risque. Alors, on peut prendre pour exemple le cas des troubles cognitifs sévères liés à l'alcool et de la démence, puisque l'alcool est une substance qui va être très hautement neurotoxique. Alors, sur cette diapositive, vous voyez ici les résultats d'une première étude qui était sortie en 2018, qui avait fait pas mal parler d'elle et qui portait sur un échantillon important en France de personnes admises aux urgences. Et l'objectif de l'étude, c'était de pouvoir recenser les cas de démence et de pouvoir établir éventuellement le lien avec l'addiction à l'alcool. Et donc, vous voyez ce que montre cette étude, c'est que ici, on parle bien d'addiction à l'alcool. C'est apparu dans cette étude, et ça a été repris en plein de données également, comme le facteur de risque majeur de démence. Donc, vous voyez, devant le tabac, l'obésité, ou le diabète, ou même l'hypertension artérielle, de démence, toutes causes confondues, donc y compris la maladie d'Alzheimer, mais plus particulièrement de démence survenant à un âge précoce. Et puis, de façon encore plus récente, cette année, en 2025, il y a eu également une autre étude qui a porté sur un échantillon très très important de personnes à partir de cohortes britanniques et américaines, qui a pu montrer, à l'aide de statistiques et de méthodes statistiques très rigoureuses qui permettent de contrôler tout un ensemble de biais méthodologiques, cette étude très importante a montré que l'addiction à l'alcool, là encore, était vraiment associée à un risque très élevé de développement de démence, mais que fatalement, cette augmentation du risque était également retrouvée chez des consommateurs avec des niveaux de consommation légers à modérés, suggérant que finalement, toute consommation d'alcool va s'associer à un risque pour la santé, et là, en l'occurrence, un risque sur le plan neurologique. Alors, ces résultats, ils ont été répliqués pour un certain nombre de pathologies, en particulier des maladies cardiovasculaires et également les accidents vasculaires cérébraux, qui montrent ces données que finalement, une consommation d'alcool, même modérée, va s'associer à une augmentation du risque. Donc finalement, de manière plus claire, il n'existe pas de consommation d'alcool finalement associée à zéro risque. Alors ça, c'est important parce que ça solde finalement beaucoup de débats depuis de très nombreuses années autour de l'idée que potentiellement des consommations modérées d'alcool pourraient être dépourvues de risque, voire avoir un effet potentiellement protecteur vis-à-vis de certaines pathologies. Finalement, les données de la science et tous les travaux de recherche épidémiologique ont clairement aujourd'hui démenti cette hypothèse. Pour finir, hein, pour illustrer sur les effets de l'alcool, donc pas de rôle protecteur de faible consommation, avec un impact important sur la survenue de cancer, hein, sur un certain nombre de cancers. Et vous voyez ces résultats également qui ont été repris dans un rapport de l'INSERM récent, qui montrait finalement que l'implication de la consommation d'alcool dans les nouveaux cas de cancer en France, et avec des niveaux de consommation faibles à modérés qui, pour une partie importante, contribuait aux nouveaux cas de ces cancers. Donc là, on ne parle pas d'addiction à l'alcool, hein, on est sur des niveaux d'usage finalement réguliers. Et on voit ici que finalement, ces niveaux de consommation faibles à modérés vont potentiellement avoir un impact important, particulièrement sur la survenue d'un cancer du sein. Donc tout ça, ça a été repris par l'Organisation mondiale de la santé, là encore en compilant toutes les données épidémiologiques. Et finalement, ce qui a été retenu comme seuil, c'est qu'un risque de mortalité, un surrisque pour la santé, il apparaît dès 10 verres par semaine, soit environ à 1,5 verre par jour. On va revenir un petit peu sur ces données. Donc vous voyez ici sur cette courbe, hein, le fait que l'augmentation du risque de mortalité, il apparaît dès les petites consommations d'alcool par jour, avec une augmentation du risque finalement exponentielle. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas de seuil d'alcool sans risque, et qu'on va avoir une augmentation du risque de mortalité, toutes causes confondues, avec l'augmentation des niveaux de consommation. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, comment est-ce qu'on va quantifier la consommation d'alcool? Et finalement, ça va être quoi, une consommation à risque ou à plus fort risque? Alors, tout d'abord, on a un certain nombre de repères de consommation. Donc ça, c'est très important, ça va nous permettre de quantifier la consommation par jour et la consommation par semaine. Alors pour cela, on utilise ce qu'on appelle des verres standards, qui sont les unités d'alcool utilisées au niveau international et qui correspondent en France à 10 grammes d'alcool pur. Et donc à partir de ces verres standards, qui sont finalement les doses bar, on va pouvoir quantifier la quantité donc d'alcool consommé en prenant en compte à la fois le degré d'alcool et le volume. Donc vous voyez sur cette diapositive, une unité d'alcool ou un verre d'alcool standard, ça va être une bière de 25 centilitres à 5 degrés. Donc quand on prend une pinte, 50 centilitres, c'est 2 unités d'alcool, et quand on prend une pinte à 8-9 degrés, ça va être le double. Voilà, et puis on peut décliner ça avec environ 2,5 à 3 centilitres de whisky, ce qui correspond à un verre standard ou une unité d'alcool, etc. Donc vous voyez, ce qui va compter, ça ne va pas forcément être la notion d'alcool fort ou d'alcool moins fort, ça va être la quantité d'alcool finalement consommée par la personne en verre standard ou en unité. Donc on peut avoir une pratique à très haut risque avec l'alcool, avec des alcools pas forcément très concentrés en alcool, mais si on en prend des quantités importantes. Donc à partir de toutes les données que je vous ai présentées, Santé publique France et l'Institut national du cancer ont revu un peu à la baisse les recommandations et les repères de consommation en population générale, en prenant en compte finalement ce risque qui était corrélé à la fois aux quantités consommées et finalement aussi aux éléments de fréquence. Donc les repères de consommation qui ont été établis par ces instituts et par des groupes d'experts donc en 2017, c'est pas plus donc de 10 verres par semaine. Et ce qui est également important, c'est d'éviter des consommations tous les jours avec toujours dans la semaine quelques jours sans consommation. Pas plus de 2 verres par jour, par occasion et pas tous les jours, hein, avec au moins finalement 2 jours sans consommation, et un repère de consommation par occasion qui est pas plus de 4 verres donc par occasion. L'autre élément important, c'est le zéro alcool hein, pendant la grossesse, sur le fait que bah, finalement on n'a pas aujourd'hui identifié de seuil d'innocuité de la consommation d'alcool par rapport au développement du fœtus et par rapport au risque de syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors ces repères sont très importants à connaître et à diffuser aussi au niveau de la population générale, puisque ça va effectivement permettre de favoriser des finalement modifications du comportement, des diminutions finalement de la quantité consommée, même chez des personnes qui auraient finalement une quantité, une consommation plutôt modérée, avec un impact qui peut être assez significatif finalement sur la santé en termes de morbi-mortalité. Donc à partir de ces repères, finalement, on peut identifier ben, finalement c'est quoi boire trop. Boire trop, ce serait finalement avoir une consommation qui va dépasser ses repères de consommation. Et ça, ça va s'associer à des risques finalement pour la santé. Alors, c'est ce qu'on va appeler finalement un usage à risque au-dessus de ses recommandations. Et puis en dessous, on n'appellerait pas ça un usage simple ou un usage sans risque. On appelle ça plutôt un usage à faible risque, pour finalement souligner que toute consommation d'alcool va s'associer à un risque pour la santé. Alors l'usage à risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on consomme trop d'alcool et que cette consommation, elle présente un risque sur le plan médical, pour développer un certain nombre de maladies, mais également potentiellement un risque pour l'humeur, un risque avec un impact possible sur la vie familiale, les relations interpersonnelles, la régulation des émotions et également. Et puis un autre risque dans tout ça, qui va être bien sûr très important, c'est le fait de développer potentiellement à un moment donné une addiction à l'alcool, un trouble de l'usage. Donc l'usage à risque, on est au-delà des recommandations, on n'a pas toutes les complications, mais on est à risque de développer par la suite ces complications. Donc est-ce que boire trop, finalement, c'est forcément avoir une addiction? Non, mais peut-être c'est associé à une addiction. Donc ça, on ne peut pas vraiment tout de suite le savoir. Et ça va être vraiment le rôle des professionnels de santé de pouvoir évaluer un peu plus, à partir d'un certain nombre de repères, si finalement ces niveaux de consommation finalement plus élevés vont s'associer ou pas à une addiction à l'alcool, à partir de un certain nombre de symptômes, d'un certain nombre de critères que l'on va un petit peu plus détailler et définir, et de pouvoir plus examiner finalement la place que prend la substance dans la vie de la personne. Avant d'aborder l'addiction à l'alcool, il est aussi important peut-être de parler d'une autre pratique à risque de consommation qu'on désigne sous le terme de binge drinking, alcoolisation ponctuelle importante en français. Donc un terme anglo-saxon qui désigne une pratique qui s'est particulièrement développée chez les sujets jeunes et qui est une pratique de consommation également particulièrement à risque. Alors, on n'a pas vraiment de consensus international sur la définition du binge drinking, mais on peut la définir et le définir comme une consommation d'alcool ponctuelle, mais qui va être caractérisée par son intensité et surtout associée sur un laps de temps très court. La définition, c'est en moins de 2 heures. Donc, c'est défini pour une consommation de plus de 5 unités d'alcool, donc à partir de 6 unités d'alcool et plus sur un temps inférieur à 2 heures, et plus de 4 unités d'alcool chez l'adolescent. Donc le binge drinking, c'est boire trop, trop vite et trop souvent, et on sait que c'est une pratique, comportement qui peut être extrême chez des personnes qui ont vraiment une fréquence très importante de conduite de binge drinking, et une pratique qui va être pas mal observé chez les jeunes. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que on sait que c'est également une modalité de consommation qui va être très à risque, avec un certain nombre d'effets qui ont été identifiés à court terme: conduite à risque, accident, blackout, des trous de mémoire, des comas éthyliques, des troubles cognitifs, et également des effets à plus long terme. C'est une modalité justement de consommation qui va être beaucoup plus à risque pour le développement d'un trouble de l'usage dans les années qui suivent, et en particulier à l'âge adulte, beaucoup d'impact au niveau cognitif, voire de complications cardiovasculaires, avec une modalité de consommation qui est plus toxique pour le cœur. Et puis, des données suggèrent aussi que cette modalité de consommation puisse être un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral chez le sujet jeune. Je vous ai montré ici également des données qui, chez l'homme, chez des adolescents et des jeunes adultes, qui ont montré des adolescents qui pratiquaient de manière fréquente le binge drinking, qui montraient clairement, et ça a été répliqué dans plein d'études, une atteinte au niveau cérébral, au niveau de la substance blanche, également d'autres études de la substance grise, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte au niveau des neurones et puis de tout le tissu qui participe à la diffusion de l'information, donc avec un impact sur le plan cognitif, troubles de la concentration et mémoire de travail. Alors les jeunes sont particulièrement ciblés par le marketing numérique, avec des contenus promotionnels qui vont être particulièrement attractifs sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, une omniprésence donc de l'alcool, et une méta-analyse cette année est sortie, qui a fortement montré l'influence de la promotion illégale finalement de l'alcool via ces plateformes numériques sur l'initiation de la consommation d'alcool chez les plus jeunes, sur les pratiques de binge drinking et également sur le fait de générer des consommations dans les sourds qui suivent finalement l'exposition à ce marketing digital. Donc on est face à un enjeu majeur de prévention, avec une nécessité de contrôle, de régulation de ces plateformes numériques et de limitation de l'accès et de surveillance également de tous les algorithmes. L'association Addiction France, cette année, il y a 2 semaines, a publié un rapport qui montrait que depuis un an, il y avait plus de 5000 contenus pro-alcool qui étaient identifiés sur les réseaux sociaux via un certain nombre de plateformes. Et donc, un certain nombre de publicités finalement promues par l'industrie de l'alcool. Alors, maintenant, quelques éléments sur le trouble de l'usage, l'addiction à l'alcool. Comment est-ce qu'on peut définir et quels sont les symptômes, finalement, de l'addiction à l'alcool? Donc, comme toutes les autres addictions, avec substance ou sans substance, l'addiction est définie aujourd'hui comme une maladie. C'est une maladie chronique. On dit que c'est une maladie hautement récidivante, c'est-à-dire qu'elle va être caractérisée par un taux très élevé de rechute. Elle va être caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de substances en dépit des conséquences négatives. Donc l'addiction va se caractériser sur le plan clinique par une dimension centrale qui est la dimension de perte de contrôle de l'usage, c'est-à-dire que la personne, à un moment donné, a perdu sa capacité de réguler. Elle va consommer plus que prévu initialement, sur des périodes de temps plus importantes. Et ça va se refléter par, finalement, des difficultés à réduire ou arrêter durablement la consommation, avec notamment une altériose de période d'arrêt de réduction suivie de rechute. Donc la difficulté pour la personne qui a une addiction, en particulier une addiction à l'alcool, c'est pas forcément toujours d'arrêter. Sa difficulté, c'est son incapacité à maintenir l'arrêt ou la réduction dans la durée avec donc la notion de rechute. Et ces rechutes, on sait aujourd'hui qu'elles sont sous-tendues et provoquées par un symptôme très important de l'addiction qu'on désigne sous le terme anglo-saxon de craving, qui désigne cette envie irrépressible, incontrôlable, finalement, de consommer le produit, consommer la substance. Et ce craving va persister même après l'arrêt des consommations, même au-delà du sevrage, et va être un moteur très important des rechutes, et donc aujourd'hui est considéré comme une cible thérapeutique donc majeure. Et puis donc le trouble de l'usage de l'addiction va s'associer à la dimension de retentissement dans la vie de la personne, de dommages dans de très nombreux domaines, et donc associé à une mortalité élevée. Alors pour faire le diagnostic d'addiction au trouble de l'usage, on va se baser sur des critères diagnostiques issus de la classification internationale des troubles mentaux, qui est le DSM-5, et donc avec 11 critères pour répondre, 11 critères de diagnostic d'addiction à l'alcool, et il suffit de 2 critères sur les 11 pour finalement répondre au diagnostic de troubles de l'usage. Alors ces 11 critères, on peut globalement les catégoriser en 3 grands groupes. La dimension principale de symptômes, ça va être la dimension, donc, je l'ai dit, de perte de contrôle, et qui est très liée aux symptômes et à dimension de craving, donc d'envie irrépressible, intense, orientée sur l'objet d'addiction. Donc dans l'addiction à l'alcool, la personne va avoir très très envie de boire de l'alcool, alors même qu'elle souhaite réduire et arrêter. Donc on va être dans une situation de conflit finalement psychique très fort, avec d'un côté une volonté d'arrêter ou de diminuer, et de l'autre finalement une incapacité à le faire du fait de cette perte de contrôle et du craving. Donc ça va générer chez la personne une forte détresse émotionnelle et souvent beaucoup d'incompréhension de la part de la famille et de l'entourage. Mais on voit bien que l'addiction va pas être une question de volonté d'arrêt. Ça va, puisqu'on va être dans une dérégulation finalement de tous ces systèmes de motivation. L'autre catégorie de symptômes, ça va être le retentissement, les conséquences qui sont directement liées à la perte de contrôle, avec des conséquences sociales, interpersonnelles, des conséquences médicales, des conduites à risque, le désinvestissement des autres activités, et puis le maintien des consommations en dépit de l'accumulation de dommages. Et puis enfin, le troisième groupe de symptômes, c'est ce qu'on appelle plutôt des critères de dépendance pharmacologique, avec la tolérance et le sevrage. Donc la tolérance, ça va être des signes physiques, physiologiques, à l'arrêt brutal de la consommation. Ces signes physiques, c'est important parce que ça va nécessiter quand même une supervision médicale, parce qu'ils sont potentiellement dangereux pour la personne, ils peuvent s'associer à des complications. C'est ce qui explique aussi que le dry January, dont on va vous parler tout à l'heure, c'est pas adapté pour les personnes qui ont une addiction. Hein, parce que finalement, le fait d'arrêter brutalement tout seul chez soi, ça peut être plutôt dangereux pour une personne avec addiction. Alors, une fois je vous ai dit ça, un autre élément à avoir en tête, c'est que ces éléments de pharmacodépendance, de dépendance plutôt physiologique, ils ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que le sevrage physique d'alcool à l'arrêt, très très souvent, il ne va pas être présent même chez une personne qui a une addiction à l'alcool. Donc le fait de ne pas avoir de sevrage physique ou physiologique ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'addiction à l'alcool. Alors, à côté de ces éléments cliniques, il y a également eu une évolution importante dans les modèles d'explication de l'addiction, avec aujourd'hui une compréhension de l'addiction comme un modèle de maladie complexe, où finalement la seule exposition à la substance ne va pas à elle seule suffire à expliquer finalement le développement de cette maladie. Et on estime effectivement aujourd'hui que l'addiction va vraiment résulter de l'interaction entre des facteurs qui vont être liés à l'individu, à ses caractéristiques psychiatriques, psychologiques, psychopathologiques, des facteurs liés à son environnement, précoce dans l'enfance, mais également on peut dire même prénatal et postnatal immédiat, avec potentiellement l'exposition aussi à des substances, ou les facteurs environnementaux en lien avec le stress, le contexte social, sociétal, et puis les effets directement de la substance sur le cerveau. Et on identifie très bien aujourd'hui les effets de l'ensemble des substances addictives sur des régions du cerveau qu'on appelle le système mésocortico-limbique, qui inclut le système de la récompense, mais également le système de régulation des émotions, de régulation du stress, de la prise de décision, de la motivation. Et l'activation de ces systèmes de manière répétée par les substances, ça va entraîner des dérégulations chroniques, durables, à la fois au niveau anatomique et fonctionnel de ces zones du cerveau, et ce qui va générer cette dérégulation finalement de la prise et les manifestations notamment de craving et la rechute. Donc ça va être l'interaction à un moment donné de l'ensemble de ces facteurs de risque qui vont expliquer le développement de l'addiction, et ce qui explique aussi que à partir du moment où on va parler de prévention mais également de prise en charge, on va être toujours dans une approche qui prend en compte ce modèle finalement plutôt global et complexe, donc avec des approches de prise en charge globale qui seront toujours basées sur ce modèle donc biopsychosocial. En termes de facteurs de risque, un élément très important qui est la notion de l'âge, puisque on sait clairement aujourd'hui que l'exposition précoce aux pratiques addictives, aux produits, mais également à d'autres comportements addictifs, va être un facteur de risque majeur de développement de l'addiction à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce que à l'adolescence, le système nerveux central est très fragile, en cours de maturation, même jusqu'à l'âge de 25 ans, et donc va être particulièrement sensible finalement à l'influence des substances et à l'influence donc de tous les facteurs environnementaux. Donc un élément majeur pour la prévention, c'est de différer le plus possible l'initiation, l'âge de début des consommations, l'âge d'entrée dans les consommations, et là, les pouvoirs publics, la société, il y a un rôle très très important justement pour réglementer, réguler et limiter l'accès et protéger les plus jeunes qui sont donc les populations les plus vulnérables. Donc pour finir sur ma présentation et laisser la parole à ma collègue, on voit que l'évolution dans l'addiction, ça va être une trajectoire, on va pas entrer d'emblée dans un comportement addictif. Et on estime qu'il y a finalement un continuum entre le début de l'usage, qui va être un usage sans addiction, sans part de contrôle, avec la possibilité d'arrêt à tout moment ou de réduction. Un usage qui, à un moment donné, devient problématique, donc c'est-à-dire qui va se déréguler avec une augmentation des quantités, un début de complication, jusqu'à finalement l'entrée, le développement de l'addiction, où là, on est dans un contexte de maladie chronique, avec des cycles de rechute, la perte de contrôle, le craving, les dommages, et des niveaux d'intensité, par contre, qui vont varier d'un sujet à l'autre. Et donc, les approches pour s'occuper de l'addiction doivent finalement prendre en compte ce continuum dans une approche plutôt dimensionnelle, et on va pouvoir proposer finalement des interventions et des programmes de soins gradués, en fonction de là où la personne est, de sa trajectoire de consommation, et donc qui intègre de bout en bout de ce continuum des actions de prévention, jusqu'à des interventions qu'on appelle des interventions brèves lors de l'usage à risque, et puis des prises en charge plus complètes, globales, plus intenses, dans le cas de l'addiction, avec toujours une approche globale biopsychosociale. Donc un enjeu majeur par rapport à ce qu'on vient de voir, ça va être d'améliorer le repérage précoce et l'accès aux soins. L'enjeu, c'est de pouvoir intervenir le plus en amont. Vous voyez, plus on progresse dans l'addiction, finalement, plus on va être sur des niveaux de consommation élevés et des conséquences sévères. Et donc, c'est de pouvoir repérer précocement, le plus en amont, finalement, des complications et de l'addiction. Et pour les personnes qui ont besoin, qui ont vraiment une conduite addictive, de pouvoir favoriser l'accès aux soins le plus précocement possible. Et ça, c'est un vrai problème en matière de conduite addictive. C'est qu'il y a encore un décalage important entre l'ensemble, la masse des personnes concernées par la problématique et la proportion de ceux qui vont accéder à un soin. On estime que toute addiction confondue, il y a moins de 20% des personnes qui ont une addiction qui vont accéder à un soin spécialisé. Et malheureusement, quand les personnes accèdent à un soin, c'est souvent plutôt après 10 ans d'évolution. Et donc ça va être un enjeu tout à fait majeur pour effectivement améliorer la prise en charge et l'évolution des patients. Voilà, donc je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue, le docteur Natacha Pistre. Donc
je vais prendre la suite de la présentation du professeur Fatias pour vous parler du repérage, des interventions qui peuvent être, en tout cas qui sont existantes, et des dispositifs possibles pour les prises en charge d'addiction notamment, et par rapport à l'addiction à l'alcool pour ce soir. Donc, tout d'abord, il existe en fait ce qu'on appelle du repérage et des interventions brèves qui sont utilisées finalement quand il s'agit de personnes qui n'ont pas de troubles de l'usage constitué. Donc, c'est-à-dire que quand il n'existe pas de complications ni de perte de contrôle, on peut mettre en place ces interventions brèves utilisées par tout type de professionnels et qui peuvent être également utilisées par les personnes notamment qui se posent des questions par rapport à leur consommation. Donc l'objectif, c'est de faire émerger une motivation au changement chez les personnes qui ont un usage à risque ou nocif pour la santé. L'idée, c'est de se servir notamment de certains outils que le professeur Fatias vous a présentés il y a quelques minutes, finalement, notamment de définir qu'est-ce que c'est qu'un verre standard, quels sont les seuils de consommation à moindre risque, d'informer sur les risques liés à la consommation, les bénéfices qui existent liés aussi à la consommation, et d'identifier des objectifs de consommation avec la personne. Donc, on va mettre en place certaines méthodes de réduction et voir si la personne est en accord avec la consommation d'alcool qui est fixée. L'idée, c'est de laisser le choix à la personne. Donc, on va être à l'écoute, on va être empathique en tant que professionnel et on va pas nécessairement imposer de quantité de consommation. On va également réévaluer de façon régulière la consommation pour être finalement assez vigilant sur une évolution vers une addiction. Donc, il existe deux questionnaires. Il y a un questionnaire qui s'appelle l'audit. Il y a également une version courte de ce questionnaire qui est donc sous la forme de 10 questions et qui permettent d'évaluer la fréquence de consommation, le nombre de verres consommés par jour, par exemple, et également d'évaluer au cours des 12 derniers mois s'il existe des éléments en faveur d'une perte de contrôle. Donc, par exemple, si effectivement il y a des difficultés à contrôler sa consommation, à s'arrêter, s'il y a des difficultés, notamment au niveau du retentissement, des difficultés psychologiques dues à la consommation. Et donc, on a par la suite un score qui nous donne une idée si la consommation est plutôt un usage à risque ou si on rentre dans le champ de l'addiction. Donc, ces questionnaires-là peuvent être utilisés par les médecins généralistes. Et ils sont trouvables également sur Internet. Il y a également un autre questionnaire qui s'appelle le FACE, qui peut être utilisé par certains médecins généralistes. Et là, il existe donc plutôt... c'est un questionnaire de 5 questions avec 3 questions qui abordent la question de la perte de contrôle. Ces questionnaires-là donc, vont être utilisés, ou en tout cas, on va se poser la question sur la consommation d'alcool qu'on a. Et si on a des éléments en faveur d'une addiction, on peut donc déployer plutôt des dispositifs de prise en charge vraiment spécialisés sur l'addiction à l'alcool. Donc l'offre de soins, elle dispose en fait de différents dispositifs. Donc il y a un dispositif qui n'est pas oublié également, mais en tout cas en libéral, on peut avoir des médecins généralistes spécialisés en addictologie, également des psychiatres spécialisés en addictologie qui peuvent prendre en charge les personnes. Et ensuite, on a des dispositifs sociaux, médico-sociaux qui existent, avec notamment l'EXAPA, qui sont des centres de soins de prévention et d'accompagnement d'addictologie. Il y a également des CARUD, des consultations jeunes consommateurs. Donc, je ne vais pas rentrer nécessairement dans le détail, mais cela dépend finalement de l'objectif de la personne, de la sévérité de l'addiction. Et enfin, il y a des dispositifs hospitaliers avec des consultations spécialisées, ce qu'on appelle les ELSA, ce sont des équipes de liaison spécialisées en addictologie qui interviennent dans les différentes unités hospitalières. Donc cardiologie, diabétologie, les urgences et également psychiatrie. Il existe également l'hôpital de jour, dans lequel je travaille, qui permet en fait d'avoir une prise en charge entre des consultations et l'hospitalisation complète, avec une prise en charge intensive et pluridisciplinaire. Et ensuite, on a les SMRA, qui sont en fait c'est le nouveau nom finalement de ce qu'on appelait auparavant les post-cures. Donc pour un petit peu expliquer finalement comment on organise le soin, donc c'est une organisation qui est graduée, on va essayer de proposer au patient le niveau de soin qui est le plus adapté pour lui, selon ses besoins, sa motivation et aussi en fonction des ressources disponibles sur le territoire. On sait qu'effectivement, pas tous les territoires ont beaucoup d'options, donc en tout cas, on s'adapte également à ça. Et donc, on va évaluer la sévérité de l'addiction, l'intensité finalement de l'addiction. On va se concentrer également sur les risques de sevrage, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le sevrage alcool peut être donc dangereux. Enfin, il peut être mortel. C'est le seul sevrage qui peut être mortel. Donc, on va quand même être vigilant par rapport à ça. Donc, les personnes qui ont effectivement des antécédents de complications de sevrage, eh bien, on va pas proposer les mêmes prises en charge. On va également évaluer s'il y a l'existence d'autres addictions associées. On va évaluer les comorbidités, donc c'est-à-dire les pathologies associées, psychiatriques, mais également somatiques, donc c'est-à-dire au niveau de la santé physique. Donc, par exemple, s'il y a des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques. Donc, on va également évaluer ça et proposer effectivement une prise en charge parfois de ces pathologies associées. Donc, par rapport à l'alcool, imaginons. Donc, effectivement, il y a souvent des problèmes au niveau du foie. Donc, on peut travailler avec les hépatologues également. On va évaluer s'il y a des difficultés sociales, puisque parfois il y a une précarité sociale associée. et des troubles, et s'il y a effectivement des troubles cognitifs. Donc les personnes vont arriver dans le soin par différentes portes. Donc le plus souvent, il s'agit de consultations avec le médecin généraliste ou le psychiatre, mais il y a également les passages aux urgences avec l'intervention des équipes de liaison, qui donc vont nous adresser les personnes, et par la suite on va évaluer ce qui est le plus intéressant pour la personne par rapport à ses objectifs et à l'impact finalement, au retentissement dans sa vie. Je voulais quand même schématiser un petit peu, donner un exemple. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui va se rendre compte finalement de symptômes qui lui posent problème par rapport à sa consommation d'alcool. Donc, le plus souvent, il va consulter son médecin traitant ou s'il a un psychiatre, son psychiatre. Il va peut-être passer aux urgences et donc il va rencontrer l'équipe de liaison en addictologie. Et grâce finalement à cette première consultation, il va nous être adressé. Donc on va évaluer en consultation de suivi ou en hôpital de jour, par exemple, si la sévérité est déjà importante. Et donc on va proposer une prise en charge qui est pluridisciplinaire. S'il y a des complications, des signes de sevrage, on va proposer une hospitalisation. Et comme l'a dit le professeur Fatsias, ce qui est plus difficile finalement, c'est de maintenir l'arrêt ou en tout cas de prévenir les rechutes. Donc on a besoin de proposer un suivi par la suite des hospitalisations. Donc le suivi ambulatoire est très important et donc on va proposer des consultations de l'hôpital de jour. Je tenais également à dire qu'effectivement, l'entourage et les familles sont des acteurs clés du traitement et du rétablissement. Donc la photo est coupée, mais c'est vraiment des acteurs importants dans la prise en charge, puisque l'addiction, c'est une pathologie qui isole la personne, mais également éclabousse sur les différentes personnes qui sont autour. Donc on peut également prendre en charge cet entourage ou en tout cas les solliciter si on a besoin ou que eux nous sollicitent par la suite. Donc la prise en charge, elle est globale, elle est pharmacologique, elle est psychothérapeutique, elle est également sociale. Et cette prise en charge peut être pluridisciplinaire. Alors, il y a plein d'erreurs sur mon truc, mais elle est pluridisciplinaire. Donc il y a plusieurs intervenants. Donc par exemple, sur l'hôpital de jour, on peut avoir accès à une psychologue, à une infirmière, à une assistante sociale, à une psychomotricienne, une diététicienne, parce qu'effectivement, au niveau des consommations d'alcool, souvent, il y a des répercussions au niveau de la gestion émotionnelle et également au niveau du rythme alimentaire. Donc on sollicite également ces professionnels. Les personnes peuvent être suivies en individuel ou en groupe. Et on va prendre en charge les vulnérabilités. On va essayer de renforcer la motivation aux soins. Et on va faire ce qu'on appelle de la psychoéducation pour essayer de repérer les symptômes d'addiction dont on a parlé tout à l'heure, de développer des stratégies pour éviter finalement la reconsommation ou éviter la perte de contrôle. Et donc prévenir les rechutes. Et on va traiter toutes les complications, tout le retentissement finalement en lien avec donc la santé physique, au niveau aussi également de l'humeur, ou autre pathologie psychiatrique. Et on va améliorer finalement la prise en charge également au niveau social avec un travail avec les travailleurs sociaux et soutenir les familles également. Au niveau pharmacologique, donc on n'est pas dans un cours de pharmaco, mais je tenais quand même à présenter finalement les deux temps pharmacologiques qui peuvent avoir lieu dans la prise en charge addictologique pour l'addiction à l'alcool. Donc il y a un temps en lien avec le sevrage alcool qui est temporaire. Et donc il y a une prise en charge avec des vitamines et d'autres traitements qui permettent de limiter les complications liées au sevrage alcool. Et ensuite, on a également un traitement qui peut être proposé pour l'addiction à l'alcool pour diminuer ce qu'on appelle le craving, donc le symptôme clé dont on parlait tout à l'heure, avec également une action sur la perte de contrôle pour diminuer cette perte de contrôle. Donc il y a différentes molécules qui vont agir sur ce circuit de récompense et qui sont assez efficaces. Malgré tout, on propose également donc une prise en charge psychothérapeutique centrée sur le craving. Donc ça demande aux personnes de devenir un peu expertes de leur fonctionnement et du fonctionnement également de l'addiction. Donc de prendre conscience déjà de quelle est leur consommation, comment ça se passe, quelles sont les manifestations du craving, parce que ça dépend des personnes. Bon, même si on a souvent les mêmes manifestations cliniques, il y a quand même des variabilités. Donc on va demander effectivement quelles sont les sensations physiques, les émotions qu'on ressent dans ces moments-là, les pensées qui peuvent y avoir et les comportements qui ont lieu. On va demander à la personne de quantifier finalement la durée, la fréquence, l'intensité du craving à ce moment-là. Et de réfléchir à quels sont les facteurs qui peuvent déclencher ces épisodes de craving. Essayer d'éviter ces stimuli, donc on va parler de contrôle des stimuli, et de réfléchir en fait à quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place dans ces moments-là. Donc par exemple, faire une liste d'activités qui peuvent être efficaces pour diminuer le craving ou pour qu'il ne se présente pas. Donc tout ça, ça demande effectivement à la personne de beaucoup être en tout cas à l'écoute finalement de ses symptômes et à l'écoute aussi de son quotidien. Donc c'est pas quelque chose qui est facile qu'on demande aux personnes, mais c'est quelque chose d'assez efficace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monitoring du craving, le monitoring des consommations. Mais également, on peut utiliser ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Donc cela demande en fait que la personne réfléchisse en fait aux effets qu'ils ont à court terme, à long terme de la consommation d'alcool, d'identifier quelles sont leurs attentes, les effets recherchés, de voir quelles sont les croyances finalement qu'ils ont. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui va dire « la consommation me permet de faire ceci » ou « la consommation me permet de me sentir comme ceci » et finalement de se demander « est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que vraiment cette consommation m'apporte cela ?» Donc, ça permet de développer des pensées alternatives et de réfléchir en fait à quels sont les autres moyens d'atteindre cet état, on va dire, finalement, de morale qui est bon ou d'anxiété qui n'est plus présente. Je voulais également faire un point sur ce qu'on appelle les pathologies duelles, parce que c'est quelque chose auquel on est assez confronté en addictologie. Donc, pathologie duelle, ça veut dire une intrication finalement entre une pathologie psychiatrique et une pathologie addictive. Donc, on remarque que c'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc, 50% des patients qui ont une addiction en général, hein, pas addiction à l'alcool, mais qui ont une addiction, ont un trouble également psychiatrique associé. Et 20 à 30% des personnes qui ont un trouble psychiatrique ont également une addiction. Donc, quel est l'impact finalement de ces sur notre prise en charge? L'impact est assez important puisque les personnes qui ont une pathologie duelle ont souvent plus d'hospitalisation au cours de leur vie, plus de rechutes. Le risque suicidaire, il est plus élevé. Il y a également une désinsertion sociale. Il y a également des problèmes somatiques plus importants. Il y a plus de violences, plus de problèmes judiciaires. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est important d'articuler finalement la prise en charge addictologique et psychiatrique. Donc, même si parfois, il peut y avoir des résistances, c'est quelque chose qui est, à mon sens, assez important à maintenir. Je voulais faire un point sur le défi de janvier, donc le Dry January. Donc c'est un défi qui a été créé au Royaume-Uni en 2013 et qui est arrivé en France ensuite en 2021, qui est porté donc par un collectif d'organisations, donc des associations, des fédérations. Et comme le professeur Fatsas l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un défi qui est adapté aux personnes qui présentent une addiction à l'alcool. Puisque le syndrome de sevrage, donc il est dangereux, donc on le préconise pas. Donc les personnes qu'on suit en addictologie, qui ont une addiction à l'alcool, on leur dit vaut mieux pas tenter ce défi. Il reste quand même collectif et il permet en fait de reprendre la main sur leur consommation d'alcool, sur le rythme de consommation, les quantités. Effectivement, de se poser la question de quel est l'objectif en fait de consommation qui moi me convient. Celui-ci s'appuie sur des outils qui peuvent être accessibles. Donc, sur le site Dry January, il y a également donc la possibilité de s'inscrire pour avoir des mails d'accompagnement tout au long du mois de janvier. Il y a également des applications, le Try Dry ou My Défi, qui permettent D'avoir un agenda finalement où noter les émotions qu'on peut ressentir au cours de ce mois, l'impact sur le sommeil, également voir l'impact au niveau financier, voir combien d'argent on a économisé sur le mois, combien de verres on n'a pas consommé pendant ce mois. Et donc, est-ce que ce défi, il marche ? Eh bien, pour les personnes qui n'ont pas d'addiction, il marche plutôt bien. Il y a des données qui montrent que plus de la moitié, finalement, des personnes qui participent ont quand même une amélioration du bien-être mental. Il y a également une possibilité pour les personnes, en tout cas, d'envisager plus facilement le fait de ne pas accepter un verre d'alcool suite à ce Dry January. Il y a 42% qui déclarent qu'il y a une amélioration du bien-être physique, 31% qui déclarent une amélioration du sommeil. Et ce qu'on note également, c'est que 3 mois après le Dry January, il y a plus de la moitié, ou presque 2/3 finalement, qui consomment toujours moins d'alcool. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui permet de se poser la question de est-ce que ma consommation d'alcool me convient et est-ce que je ne veux pas le diminuer pour avoir un impact positif sur ma vie. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai eu beaucoup de problèmes de diapos, je suis désolée, mais en tout cas, voilà, on est disponible pour les questions avec le professeur Fatias.